des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
À l'invitation du Zoom, le Centre de culture scientifique et technique de Laval, Gaël Pantin-Soyer et Marc Anton sont venus animer une conférence débat sur la transition alimentaire le 21 septembre dernier. Et nous bénéficions d'un entretien particulier avec Gaël Pantin-Soyer pour comprendre ce que recouvre cette notion de transition alimentaire et les enjeux. Gaël Pantin-Soyer, vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université d'Angers, c'est bien cela ?
Exactement, je suis professeure à l'IAE, donc c'est l'Institut d'administration des entreprises de l'Université d'Angers.
Quel lien avec la transition alimentaire ?
Alors moi, je suis spécialiste en comportement des individus, donc comportement des consommateurs, dans le cadre des travaux en marketing. Et donc, je m'intéresse aux nouveaux enjeux d'une alimentation plus durable et donc à ces comportements de transition alimentaire. On s'intéresse surtout au fait que des consommateurs vont passer, par exemple, d'une consommation très carnée à une consommation plus végétalisée. Et on essaie de comprendre, en fait, les ressorts et les motivations qui font que ces consommateurs vont vers plus de végétal.
C'est ce que vous allez essayer de nous expliquer. Tout d'abord, quand on parle de transition alimentaire, on est d'accord, ça concerne directement ce dont nous nous nourrissons, notre alimentation.
Exactement. Alors quand on parle de transition, on évoque surtout une transition à caractère durable, c'est-à-dire modifier son alimentation pour pouvoir plus la végétaliser, consommer moins d'aliments d'origine carnée pour essayer d'avoir moins d'impact sur la planète.
Ce sont des tendances de consommation sans doute que vous allez nous confirmer, mais beaucoup de schémas un petit peu alarmistes nous disent que nous sommes 8 milliards aujourd'hui, ou presque 8 milliards, j'anticipe un tout petit peu, nous serons presque 10 milliards dans 30 ans et que de toute façon la planète ne suffira pas à nourrir tout le monde. Est-ce que c'est juste d'abord et est-ce que c'est une des premières motivations pour cette transition alimentaire ?
Alors tout à fait, la surpopulation mondiale et le fait que effectivement les prospectives montrent qu'on pourrait être à 10 milliards à l'horizon 2050 sont assez alarmistes, alors si elles se vérifient bien entendu. Et si nous continuons en fait à avoir un régime alimentaire tel que nous l'avons dans les pays occidentaux, nous manquerons d'aliments puisqu'il n'y a pas de surface cultivable suffisamment importante pour nourrir autant d'individus et surtout autant d'individus avec ce type d'alimentation, donc c'est-à-dire l'élevage et les productions agricoles classiques.
C'est-à-dire qu'il faut regarder à la fois sur notre alimentation, en quoi elle consiste, et puis d'un autre côté, ce que la Terre est capable de produire finalement et de faire corréler ces deux nécessités.
Exactement. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne peut pas multiplier les surfaces d'élevage et qu'on peut utiliser d'autres alternatives par rapport aux sources de protéines. Donc souvent, on mange de la viande parce que c'est une source de protéines, ça nous permet d'être en forme, etc. Alors qu'il existe d'autres sources de protéines qui sont plus d'origine végétale, telles que les légumineuses. On pourrait éventuellement limiter les surfaces d'élevage et surtout toutes les conséquences néfastes de l'élevage, notamment les rejets de CO2 qui sont extrêmement polluants. On pourrait utiliser ces surfaces agricoles pour produire des légumineuses qui seraient en plus locales, puisque ça éviterait l'importation de légumineuses ou de sources alternatives qui proviennent de très loin, notamment comme le soja du Brésil.
Sur cet aspect-là, on sait qu'effectivement la viande, elle peut être consommée localement, mais elle peut aussi, la nôtre, partir très très loin et celle que l'on consomme venir de très très loin. Donc ça, c'est pas forcément une garantie.
Effectivement. Donc ce qu'il va falloir aussi favoriser, c'est vraiment le locavorisme, c'est-à-dire manger de la nourriture qui provient de sources plutôt locales. Donc ça, c'est vraiment l'objectif des travaux que l'on mène, essayer de valoriser des cultures locales, le quinoa en Anjou par exemple, et puis continuer à manger de la viande, puisque l'idée, c'est pas de demander à tout le monde d'arrêter de manger de la viande.
Ouf.
Alors c'est, oui, effectivement, quand on travaille sur la transition alimentaire, on n'a pas ce prisme de transformer tout le monde en végétarien ou en végétalien. Évidemment, plus on végétalise notre alimentation, moins on a d'impact environnemental. Donc c'est évidemment quelque chose de bon. Mais si on s'en tient aux conclusions du GIEC, on pourrait continuer à consommer 300 grammes de viande par semaine à peu près.
Donc ça laisse quand même un petit peu de quoi voir venir. Et ça, cette consommation des 300 grammes préconisée par le GIEC par semaine, elle permettrait de respecter les équilibres de rejet de carbone et puis de nourrir donc ces 10 milliards que nous serons peut-être en 2050.
Exactement. En fait, ça permet vraiment de limiter toute la pollution qui est liée à la consommation de production carnée, hein, tout simplement. Et puis, de pouvoir réduire, alors pas réduire, mais de limiter l'augmentation de la température sur la Terre.
On ne va pas revenir sur cet aspect-là, sur pourquoi l'élevage contribue à produire du CO2 et donc à élever la température, parce que c'est peut-être un autre débat. Aujourd'hui, Gaëlle Pantin-Soyer, puisque c'est quand même l'objet de votre étude, quelle est la consommation de viande par habitant en France ou à l'étranger ?
Alors, la quantité exacte, je ne peux pas vous la donner en kilogrammes, par exemple, mais ce qu'on sait, c'est qu'un repas d'un Européen et d'un Français particulièrement est composé à 50% de viande et 50% d'autres sources de nourriture. Ce qu'on préconise, nous, c'est que de descendre à 25% ou 30% en fait, de viande dans l'assiette et de laisser le reste aux légumineuses ou aux sources telles que le riz, les féculents, etc. Pour limiter drastiquement en fait, cette consommation de viande. Parce qu'on a des habitudes alimentaires, des traditions culinaires qui font que la viande, elle est au centre du plat. Et ce qu'il faut, et c'est ça qui est compliqué à faire accepter, c'est un petit peu modifier la perspective de préparation, ce qui est très très compliqué dans un pays gastronomique comme la France.
En même temps, c'est une tradition relativement récente, hein, parce qu'il y a 100 ans, dans les campagnes, on attendait le dimanche ou les fêtes, hein, pour avoir de la viande à table. Donc finalement, c'est une tradition très récente.
Alors c'est une tradition récente qui s'est banalisée en fait avec la baisse du prix de la viande, hein, tout simplement, les élevages aussi intensifs qui ont permis une baisse drastique du prix de n'importe quel type de viande, hein, du porc à la volaille au bœuf, hein, et surtout au fait qu'on puisse la trouver un petit peu partout sans être obligé de passer par un boucher qui était le principal fournisseur finalement de ce type de produit auparavant.
Vous, votre étude, Gaëlle Pantin-Soyer, elle porte vraiment plus sur les habitudes des consommateurs, hein, et les tendances ou les projections peut-être que l'on peut faire que sur la diététique en fait, que sur le bien fondé d'une telle ou telle consommation sur le corps.
Alors, on part bien sûr de fondements diététiques et surtout de fondements environnementaux, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur la planète, ou en tout cas de limiter l'impact négatif via notre alimentation, et de comprendre quels sont les ressorts sur lesquels on peut s'appuyer pour faire accepter cette modification de comportement alimentaire chez les individus. Donc, on a mené des études sur différentes populations, donc à la fois des adolescents, des jeunes adultes, et puis des générations Y, hein, ceux qui sont nés avant 80, et on se rend compte que les motivations sont un petit peu différentes. Sur les générations Y, on est plus sur des motivations individuelles, c'est-à-dire qu'ils vont certainement limiter leur consommation de viande, mais pour des raisons de santé, par exemple. Parce qu'ils savent qu'en consommer trop, ça peut conduire à avoir des cancers, des maladies cardiovasculaires, des choses comme ça. Quand on interroge les plus jeunes, ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'environnement et le bien-être animal. On se rend compte que les préoccupations sont un petit peu différentes, ce qui signifie qu'en termes de ressort marketing, c'est-à-dire pour essayer de faire accepter cette baisse de consommation d'origine animale, il va falloir utiliser des arguments qui sont différents en fonction de la population que l'on cible.
Ce travail, vous le réalisez pour qui ? Pour des instituts français ou pour des entreprises privées, par exemple, justement, qui sont spécialisées dans la production de protéines végétales, par exemple ?
Alors, on travaille à différents niveaux. Donc, moi, je suis universitaire, donc tous mes travaux sont d'ordre public. Mais je travaille à la fois sur des projets dits ANR, donc financés par l'Agence nationale de la recherche, donc par le ministère de la recherche, où là, je travaille sur la transition protéique et les nouvelles formes d'alimentation telles que la consommation d'insectes. Donc là, avec vraiment quelque chose de très, très radical au niveau de l'innovation. Et je travaille aussi dans le cadre d'une chaire qu'on a montée il y a un an, qui est la chaire AAPRO, qui est dédiée aux protéines alternatives, à ses avantages notamment. Et dans ce cadre-là, je travaille avec 18 entreprises qui, en fait, nous font parvenir des problématiques spécifiques et qui sont toutes des entreprises soit productrices d'aliments, de protéines végétales initiales, ou alors qui sont transformatrices et qui nous font remonter en fait, des problématiques qu'elles rencontrent face à ces changements d'alimentation.
Et alors justement, ça va sans doute correspondre à ce que vous sentez chez les plus jeunes. Cette consommation de protéines végétales est en augmentation croissante.
Et en augmentation croissante, surtout effectivement chez les jeunes qui ont envie. Alors déjà, c'est un premier pas, hein, souvent quand on est sur les modifications de comportement alimentaire, c'est vraiment de passer de la contemplation à l'action. C'est-à-dire, je réfléchis effectivement au fait de changer d'alimentation, mais le passage à l'action parfois est quand même un peu plus long. Et on voit que chez les jeunes, il y a cette véritable volonté de trouver des alternatives. Sauf que sur le marché, pour l'instant, c'est assez limité. On a tout ce qu'on appelle les simili-carnés, donc la fausse viande, donc les steaks végétaux, les boulettes de légumes, des choses comme ça, mais qui, sur le plan gustatif, pour l'instant, restent assez limités du point de vue de la saveur, de la palatabilité. Il était ressenti, les consommateurs sont quand même pas très très heureux avec ces solutions proposées.
Oui, parce que, pardon, je fais une petite interruption, mais on est d'accord, un bon steak, c'est quand même hyper bon.
Alors voilà, et c'est notre principale problématique. Alors c'est d'ailleurs souvent les freins qu'on rencontre, hein, chez, alors notamment chez la génération Y, hein, des personnes qui ont entre, on va dire, 45 et 65 ans, qui ne trouvent pas d'intérêt à modifier ce type de consommation, déjà sur le plan gustatif. Parce que le plaisir ressenti, c'est quand même ça, la nourriture, c'est aussi du plaisir, et il doit être là. Et c'est surtout vrai, alors c'est particulièrement vrai en France, hein. Cet accord et cette association nourriture, plaisir gustatif ressenti qui est nécessaire, on le ressent surtout chez les consommateurs français.
Dans beaucoup d'autres pays, c'est plus utilitaire ? Y compris les pays riches, hein. On ne parle pas des pays moins riches où là ils n'ont pas trop le choix.
Oui, tout à fait, on voit que dans certains pays on peut par exemple un petit peu mettre de côté l'aspect gustatif si le côté santé est mis en avant, par exemple avec des produits beaucoup moins gras, moins sucrés, qui ne sont pas forcément très bons au goût, mais qui vont avoir un impact sur l'obésité et sur la perte de poids par exemple. En France, on a beaucoup plus de mal avec ces produits-là qui ne respectent pas des critères gustatifs initiaux dont on a envie.
Alors c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais je trouve quand même que c'est toujours un paradoxe. Effectivement, en France au moins, on multiplie les régimes. C'est vraiment un problème de riches. C'est un luxe de pouvoir se dire, tiens, ben, je vais limiter telle chose, alors qu'il y a effectivement tant de pays où ils ont du mal à se nourrir et à se nourrir correctement.
Oui, alors ça, c'est un autre pan de nos recherches qui nous intéresse tout particulièrement, parce que la transition alimentaire, ça permet aussi de trouver des moyens de lutter contre la faim. Là, on le voit notamment avec les travaux qu'on peut mener sur la consommation d'insectes. On se rend compte que la production est très, très importante dans certains pays où il y a des problèmes de famine, par exemple. Et on pourrait tout à fait recréer des productions locales qui pourraient contrer ces problématiques de malnutrition sur certaines populations. Donc oui, quand on limite notre propre consommation de certains aliments, c'est clairement un problème de riches, parce que nous, on a le choix. Par contre, dans certains pays, on doit trouver des alternatives, mais pour pouvoir se nourrir.
Et alors justement, ces alternatives avec les insectes, on passe un petit peu du coq à l'âne, hein, pardon, mais cette nouvelle alimentation avec les insectes, est-ce que c'est vraiment réaliste ? Est-ce que c'est une petite idée en l'air, un petit peu extrapolée ou,
Alors, quand on a commencé à travailler sur le sujet avec ma collègue Céline Galen de l'Université de Nantes, il y a une petite dizaine d'années, on se disait que ça mettrait certainement énormément de temps à pouvoir rentrer dans les mœurs. Là, on voit par exemple que certaines entreprises présentent des produits déjà dans la grande distribution. Chez Auchan, vous avez quelques produits de la marque Micronutrice, par exemple. C'est une tendance qui s'est accélérée. Et encore une fois, on a fait plusieurs expérimentations, plusieurs études sur différentes générations. Et on voit que la génération qui est plus jeune, qui a voyagé, qui a déjà été confrontée à ce type d'alimentation dans d'autres pays, accepte plus facilement cette nourriture qui semblait complètement radicalement nouvelle dans le paysage alimentaire français, en tout cas, ou occidental. Donc, il y a une cible qui a une appétence pour ce type de produit, pour différentes raisons, pour la transition protéique, parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines, et donc dans un régime où on va limiter la consommation de viande, ça permet de compenser par exemple les apports. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de nouveau, et le consommateur il est souvent en recherche de produits nouveaux et d'innovation, et pour l'instant à un niveau assez faible, puisque ce sont surtout des produits apéritifs, des biscuits, et on ne les a pas encore sous forme transformée dans des pâtes, alors sur certains sites internet, mais nous on pense que la meilleure solution pour l'instant pour les intégrer, c'est vraiment sous forme transformée dans des pâtes à tarte par exemple, ou dans des pâtes tout simplement à cuire, dans des cakes, des choses comme ça qui vont être beaucoup plus faciles à faire accepter aux consommateurs qu'un insecte entier quand même.
C'est sûr que si on ne voit pas, on peut oublier. Mais alors, Gaëlle Pantrassoyer, j'allais vous demander quels sont les produits, là vous citiez une marque qui vend directement des produits à base de protéines végétales, on ne vend pas encore de sachets de mygale par exemple, ou de scarabée, ou de scolopendre ou autre.
Non, alors de toute façon, il n'y a que 3 espèces d'insectes qui ont été autorisées par l'Union européenne pour vraiment la commercialisation d'insectes en France, donc, enfin en Europe d'ailleurs, il n'y en a que 3 espèces. Donc pour l'instant, on peut les trouver sous forme entière, et notamment le Ténébrion molidor, donc qui est le verre de farine, sous son autre nom, qui lui est vendu sous forme aromatisée. Donc on peut trouver des verres de farine aromatisés au thym, par exemple, aromatisés au caramel beurre salé, des choses comme ça. Donc ça, on peut en trouver assez facilement maintenant. Alors déjà sur Internet, mais de plus en plus dans la grande distribution, ou certains magasins spécialisés comme Nature et Découverte, par exemple.
Les autres, les deux autres aliments ?
Alors, il y a le grillon et le criquet.
On pourrait envisager aussi que cette tendance soit poussée par des entreprises qui cherchent un petit peu à spéculer et à faire de l'argent, à surfer peut-être sur une vague, sur une inquiétude écologique.
Les acteurs qui sont sur ce terrain-là, donc à la fois sur les protéines végétales et les protéines d'insectes, sont des start-up, hein, mais ce sont surtout des entreprises qui ont pris des risques, parce qu'à l'époque où ils ont commencé à s'intéresser à ces alternatives, c'était, alors forcément, quand on monte une entreprise, c'est pour gagner de l'argent, hein, évidemment, mais c'était clairement quand même pour trouver des alternatives pour des raisons environnementales. L'objectif initial, il était bien celui-ci. D'ailleurs, parmi ces entreprises, on en a quand même plusieurs qui sont certifiées Bicorp, donc qui respectent des critères qui sont très très élevés en matière de RSE ou d'égalité homme-femme ou de choses comme ça. Donc ce sont des entreprises qui sont quand même engagées pour la plupart d'entre elles. Maintenant, ça peut aussi donner des idées à d'autres entreprises et chercher des nouvelles branches. Finalement, on est une entreprise agroalimentaire, on pourrait envisager d'avoir une branche qui est plus végétalisée, plus à base de légumineuses, parce qu'il y a une attente du côté des consommateurs. Et c'est très bien, enfin, si ça augmente et si la plupart des entreprises agroalimentaires finalement s'y intéressent, ça veut dire que l'offre va se multiplier et que les consommateurs surtout pourront trouver ce qu'ils recherchent dans les magasins. Puisque pour l'instant, c'est un petit peu le souci, c'est qu'on a beau vouloir finalement de modifier notre alimentation, en termes d'offres, on se retrouve encore limité.
Peut-être à des coûts assez élevés.
Alors, les coûts ont tendance à baisser très, très fortement, notamment sur les substituts de viande, donc tout ce qui est à base de végétaux, steaks végétaux, boulettes, etc. On est à des tarifs finalement qui sont moins importants que de steaks, hein, donc ça coûte quand même moins cher. Alors, le goût n'est pas toujours là, hein, en fonction des produits que l'on achète. Hein. Mais sur la question de la tarification, je pense que ce n'est pas problématique, surtout qu'au niveau du sourcing, c'est-à-dire des matières premières que l'on va utiliser, si elles sont locales, elles sont aussi moins chères, forcément, elles ont moins voyagé, on n'a pas ces coûts de transport qui peuvent générer des surcoûts inutiles.
Ouais, j'ai un petit doute parce que le poulet du Brésil reste parfois moins cher quand même, hein, que le poulet du producteur d'à côté. Donc là, j'ai quand même un petit doute, mais ce n'est pas le sujet. Et comme il ne nous reste pas trop de temps, on ne va pas s'engouffrer là-dedans. Est-ce qu'il n'y a, ça ne peut pas présenter un risque, Gaëlle Pantin-Sollier, de modification à l'extrême, abusif peut-être, des territoires et effectivement des productions? Je pense par exemple aux pays d'Afrique. Est-ce qu'on ne va pas leur demander une surproduction de grillons, par exemple, au détriment d'autres choses et finalement reproduire un même schéma qu'on a déjà produit avec eux par le passé?
Alors ça, c'est vrai que ça faisait partie des risques, mais qui ont été pour l'instant limités, parce qu'une entreprise comme Insect, par exemple, qui est la première entreprise française de production et d'élevage d'insectes, hein, le fait au niveau local. Ils ont monté deux entreprises, hein, une dans le Jura et une à Amiens, pour l'instant, et la production va être locale. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller demander à d'autres pays de produire pour nous. L'idée, c'est vraiment de produire en local et de pouvoir approvisionner suffisamment sur la population locale.
Ça veut dire que ça pourrait nous mettre à l'abri de ces risques de déséquilibre économique d'une partie de la population qui en nourrit une autre.
Exactement, oui, tout à fait.
Si je reviens, parce qu'en fait là on parle beaucoup des insectes, hein, parce que c'est le truc peut-être le plus flagrant, mais si on revient peut-être sur ces légumineuses, hein, vous disiez un petit peu dans la même idée qu'on pourrait produire en local et consommer en local. Je me remémore quand même, hein, au moment du confinement où les drives fermiers, les paniers fermiers ont connu une explosion de consommateurs, hein, qui est bien retombé. Alors, est-ce que ces légumineuses produites localement pourraient vraiment être consommées localement?
Alors, il va falloir les faire aimer et surtout les refaire aimer, parce que ce sont des produits qui ont été consommés pendant des années, qui sont un peu tombés en désuétude. Je pense aux mojettes, aux haricots rouges, aux pois chiches, etc. Parce que ce sont des produits qui sont déjà longs à cuisiner, longs à faire cuire, à utiliser. Les générations actuelles ont perdu les traditions culinaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, on n'en sait rien, parce qu'en plus, ça ça met très très longtemps à préparer et on a quand même tendance à vouloir du vite fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment retrouver des recettes qui soient suffisamment rapides pour pouvoir utiliser ce type de produit. Alors nous, on compte beaucoup sur les gens sont très friands de robots ménagers et on compte beaucoup sur cet outillage aussi pour réussir à recréer des recettes qui permettent de remettre au sein des plats ces productions locales pour qu'elles ne soient pas forcément le centre de l'assiette mais une partie de la préparation, donc sous forme de purée par exemple, dans les soupes, enfin on peut imaginer énormément de choses qui permettent de les réhabiliter parce qu'effectivement ce sont des produits qui étaient largement consommés et qui sont un petit peu mis de côté. En revanche, l'engouement pour les productions locales et les produits locaux, alors il est peut-être un petit peu retombé après le Covid, mais on sent qu'il y a quand même une tendance de fond, et notamment sur la nouvelle génération, avec l'utilisation du vélo, de l'achat en vrac par exemple, et puis des produits quand même qui sont produits dans la région.
On va terminer sur vos études globalement, Gaëlle Pantin-Seuillet, vous allez nous donner votre ressenti, parce que vous n'allez pas nous donner plein de chiffres là, mais votre ressenti sur toutes ces études que vous avez l'occasion de faire sur la transition alimentaire, mais aussi peut-être sur les habitudes de consommation des Français, voire peut-être des Européens. Quelles sont les tendances actuelles, en dehors de celles qu'on aurait peut-être évoquées ? Et du coup, est-ce que ça vous amène à être optimiste pour l'avenir, à la fois pour la protection de notre environnement, le respect de la planète, qui est notre terre nourricière, et peut-être le réchauffement climatique ?
Alors la vraie tendance qui se dessine, c'est le flexitarisme. Donc c'est le fait effectivement de modifier son comportement alimentaire pour aller vers une alimentation plus végétale. Donc on sent une très très forte tendance quand même à la diminution de la quantité de viande et ça c'est assez général. Il y a différentes raisons, j'en ai donné tout à l'heure, mais ça peut être aussi pour des questions de prix parce qu'on voit que les prix aussi explosent sur certains postes et notamment la nourriture. Donc on peut se reporter sur une source qui est moins coûteuse. Donc je suis très très optimiste par rapport au comportement à venir. Il y a une véritable prise en compte de l'impact quand même de notre consommation alimentaire, mais aussi de nos autres actions sur l'environnement. On a vu quand même ce qui s'est passé cet été avec les feux de forêt, etc. Ce qui est très très inquiétant. Et si les consommateurs veulent limiter leur éco-anxiété, ils savent qu'ils peuvent agir. Et l'un des postes sur lesquels on peut agir à un niveau individuel de manière très facile, c'est vraiment la consommation alimentaire. C'est le premier poste grâce auquel on peut avoir un impact très fort sur le plan environnemental.
Il y a quand même encore deux questions qui me viennent. D'une part, le rôle des entreprises, parce que ce sont elles d'abord qui vont chercher ce fameux poulet au Brésil ou ces tomates outre-Méditerranée. Ce sont elles qui mettent les emballages et les sur-emballages et les sur-sur-emballages. Donc ça, c'est une question, les entreprises. Comment est-ce qu'on peut agir sur elle ? Et la deuxième question, c'est comment on va aider les agriculteurs à faire leur conversion ? Parce que ceux qui nous écoutent et qui sont éleveurs pour l'instant, ils se disent, eh ben quoi, mon métier, il est en train de tuer la planète. Donc déjà, on les met en accusation. Et ensuite, comment est-ce qu'on va les aider à ne pas décimer leurs troupeaux et peut-être à opérer une conversion tranquille ?
Je vais commencer par la deuxième question, parce que je pense que c'est celle qui est plus polémique. Les éleveurs, on en aura toujours besoin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on revalorise leur métier. C'est-à-dire que souvent, on leur a demandé de vendre de la viande à très bas coût, parce qu'il y avait une pression de la grande distribution, des intermédiaires, etc. Et ce n'est plus l'objectif actuel. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'ils puissent vendre leurs produits à un coût correct, qu'ils puissent continuer à les faire vivre, surtout, c'est quand même l'objectif, et qu'on revalorise le produit viande. Parce que vous évoquiez le poulet du Brésil, mais je crois que les consommateurs n'en veulent plus. Alors effectivement, il n'est pas cher. Il n'est pas cher, ça permet d'en consommer beaucoup. Mais si on se restreint en matière de consommation de viande, qu'on en mange moins, mais qui a une valeur supérieure d'un point de vue monétaire, finalement, on dépensera exactement la même somme qu'avant. Mais par contre, on consommera de la viande de très bonne qualité. Et ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer les flexitariens ou personnes qui veulent un petit peu limiter leur consommation de viande avec le travail des éleveurs, parce que c'est totalement compatible. Les objectifs peuvent être tout à fait les mêmes, mais à condition qu'on aille dans la même voie et surtout qu'on revalorise leur travail et leurs produits.
Il y en a peut-être quand même qui seront obligés d'opérer une conversion.
Si les exploitations sont moins grandes, par exemple au terme d'élevage, on peut très bien utiliser une part de l'exploitation pour faire des légumineuses locales, par exemple. Voilà. Alors oui, ça nécessite de la transformation, ça c'est évident, mais on voit bien que finalement toutes les grandes innovations, tous les grands changements sont accompagnés de modifications de comportement, mais aussi de travail.
Pour l'instant, on ne sent pas vraiment, par exemple, que la PAC se soit investie de ce problème.
Non.
Cette question.
Alors, pas complètement, effectivement. Alors, on l'a vu hein, par rapport notamment aux négociations sur l'introduction de nouvelles protéines dites nouvelles. Hein, ça a quand même traîné, ça a été très, très, très long. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un retard de ce côté-là et il va être nécessaire d'y songer dans les quelques mois à venir.
Et il nous reste très, très peu de temps pour que vous répondiez sur les entreprises.
Alors, les entreprises, il y a une véritable volonté de leur part, ça, c'est évident. Hein. Enfin, elles veulent aussi être accompagnées par rapport à ce changement, mais parfois ça nécessite des réglementations. Donc là, il y a aussi le rôle du politique, notamment la suppression des suremballages, ne pas autoriser les suremballages tout simplement, et puis surtout les obliger à être transparentes sur le type de produits qui sont contenus dans les produits transformés, par exemple, et l'origine.
C'est déjà une obligation qu'ont les entreprises, qui peut être contournée par contre.
Alors, c'est une obligation, alors c'est vrai que souvent c'est pas contourné, c'est tout simplement noté de manière très très petite au backpack, hein, c'est-à-dire pas carrière des emballages et il n'y a pas forcément d'informations très très claires sur les quantités, les proportions, etc. Donc ça c'est un autre travail que je fais avec ma collègue Fanny Thomas hein, sur cette question de transparence des informations et de la manière dont on représente les différents aliments sur les emballages pour qu'ils soient présentés de manière très très claire aux consommateurs. Et plus on les obligera, alors là d'un point de vue réglementaire à donner ce type d'informations, plus elles seront obligées de mettre des produits qui sont appréciés par les consommateurs et qui ne seront pas rejetés.
Donc tout n'est pas que entre les mains des consommateurs, comme on a souvent tendance à le laisser entendre, en fait, ça peut venir aussi des institutions, si elles se décident à agir.
Tout à fait. Alors, il faut que les institutions s'en emparent, mais c'est vrai que le consommateur a un très fort pouvoir, puisque lui, il a le pouvoir dans son porte-monnaie. Donc, en fonction de ce qu'il acceptera d'acheter ou pas, forcément, la tendance à venir en dépendra.
Merci beaucoup, Gaëlle Pantin-Soulier, parce que j'avais un petit peu peur, en fait, quand on parlait de transition alimentaire, je me suis dit, ça y est, il va falloir tout revoir depuis le début, plus le droit de manger de la viande, plus le droit de manger, de boire du café, parce que ça vient de très loin, ni même du chocolat ou des choses comme ça. En fait, je vois que vous n'êtes pas trop psychorigide, hein, sur ça, et puis qu'en fait c'est surtout le résultat des études que vous avez fait, puisque je rappelle que vous êtes chercheuse au Granem qui dépend de l'université d'Angers. Merci beaucoup de ces informations apaisantes, mais en même temps qui nous donnent aussi envie effectivement de rejoindre les plus jeunes générations, peut-être de ne pas rester dans la génération Y, au moins dans la tête. Donc merci beaucoup.
Merci à vous.